Continent Science, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'homme est l'animal loquace, l'homme parle. Mais est-ce le propre de l'homme ainsi que beaucoup ont pu l'affirmer? Le langage de l'espèce Homo sapiens sapiens est-il fondamentalement différent de celui du singe? Existe-t-il une différence de nature ou simplement une différence de degré dans cette capacité langagière entre certains animaux et nous? Qu'est-ce qui fait le spécifique de cette capacité? Comment est-elle apparue? Par une transformation physique de nos organes de phonation? Par le développement de l'intelligence de l'un de nos ancêtres? Par l'invention de la culture? Autant de questions qui nous arrêtent ce matin pour ce rendez-vous de Continent Science. Avec celle-ci, encore, de questions. Et si l'apparition du langage venait de l'organisation sociale de notre espèce? Notre guide ce matin est Jean-Louis Dessalles, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des télécommunications. Bonjour Jean-Louis Dessalles.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dès l'abord constater que, après tout, il y a une sorte de phénomène gigantesque? C'est la préoccupation qu'ont eu les hommes pour essayer d'élucider l'apparition de leur capacité langagière. Ça remonte très loin. Toutes les philosophies ont à un moment leur philosophie du langage et de l'origine du langage.
Oui et non. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, Hérodote rapporte une anecdote, celle d'un pharaon, Psammeticus, qui avait cherché à savoir quelle était la langue primitive. Donc on rapporte qu'il avait enfermé des enfants donc qui devaient être nourris par des serviteurs sans que jamais ceux-ci ne prononcent le moindre mot. Et on a observé, soi-disant, ainsi raconte la fable, que quand on est allé voir ces enfants, le premier mot qu'ils ont prononcé voulait dire pain en phrygien. Donc le pharaon en a conclu que la langue originelle était le phrygien. Et après, on a eu une avalanche d'autres anecdotes. Tantôt, ça a été l'hébreu, tantôt telle ou telle langue qui a été choisie comme primitive. Donc, en fait, tout cela n'est pas sérieux. Et évidemment, cette expérience ne peut pas être tentée. Hein. Et si on enfermait des enfants de cette manière-là, sans doute n'y survivrait-il pas.
On risquerait d'en faire des enfants loups d'une certaine façon, hein, certainement, fait. Oui. Alors, à l'autre bord, évidemment, de cette pléthore d'imagination pour l'invention ou l'émergence du langage, il y a un interdit. C'est une prescription extrêmement ferme qu'avait adoptée au XIXe siècle la Société de linguistique en France, qui était... Tu ne réfléchiras pas à l'origine du langage.
Oui, on a beaucoup parlé de cet interdit, il est réel, hein. On a le document, et effectivement, il n'a pas été effectif dans la loi longtemps, hein, dans les statuts de cette association, mais il a beaucoup frappé les esprits, ce qui fait que c'était effectivement une question non fréquentable, hein, parler de l'origine du langage, sans doute parce qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi, et... Finalement, c'était peut-être à l'époque pas plus mal de calmer un peu les esprits, de leur dire, bon, on va faire des choses un peu plus sérieuses. Mais malheureusement, l'interdit, c'est finalement, inconsciemment pour tout le monde, c'est prolongé jusqu'à récemment. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que vraiment la communauté scientifique s'est un petit peu rendu compte qu'il y avait là une question fondamentale qui était tout à fait délaissée.
En tout cas, Jean-Louis Dessalles, vous avez trompé l'interdit, puisque en témoigne simplement l'origine du livre que vous avez publié il y a maintenant presque un an, qui s'intitule tout simplement « Aux origines du langage » avec comme sous-titre « Une histoire naturelle de la parole ». Alors, j'indiquais au tout début que vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale des télécommunications. Une des règles de ces rendez-vous de Continent Science, c'est d'essayer de comprendre et de donner figure à l'itinéraire que ont suivi chacun des interlocuteurs qui se succèdent à ce micro. Vous êtes d'abord un spécialiste des communications. Et la question, évidemment, c'est au bout, pourquoi en arriver, vous faites aussi de la linguistique, pourquoi en arriver à poser cette question, qu'on va dire, grandiose?
Oui, d'abord, j'ai une formation d'ingénieur au départ, donc je suis intéressé à la modélisation de beaucoup de phénomènes. Mon outil, c'est l'ordinateur. Grâce à la puissance des ordinateurs, maintenant, on peut tranquillement, sur un petits ordinateurs personnels faire des simulations. Et donc, bon, il y a tout un champ d'expérience qui s'ouvre à nous. Alors, moi, j'ai toujours été intéressé par le langage d'une part, par l'évolution d'autre part. Et il se trouve qu'on peut faire des expériences de modélisation sur ces deux aspects passionnants. Qui... Bon, alors, moi, je travaille à l'école des télécoms. Et il se trouve que maintenant, le langage, l'étude du langage, sa modélisation présente des enjeux gigantesques, principalement à cause d'Internet et de toutes ces raisons. Donc,
bien sûr.
Là, il y a la rencontre entre un goût personnel et effectivement une nécessité qui on s'aperçoit maintenant de manière criante qu'on a une compréhension trop limitée du phénomène langagier humain.
Alors, on peut se proposer une sorte de plan pour notre conversation de ce matin. J'ai simplement effleuré par une question ce qui va apparaître comme votre thèse, comme un ensemble de thèses que vous soutenez concernant donc les origines du langage. Mais auparavant, avant de la dévoiler, comme pour faire monter l'attention, on va bien sûr aborder un certain nombre d'autres aspects vis-à-vis desquels, dans votre réflexion, vous avez une situation évidemment souvent critique, en montrant les lacunes. Alors peut-être que un des fils qui peut nous guider, c'est une sorte de grand découpage entre les thèses. La première serait d'affirmer qu'il y a une sorte de continuité, mettons entre une espèce très proche de la nôtre, qui est que sont les chimpanzés, certains bonobos, donc des singes, donc des primates, une sorte de solutions, de chemin qui irait donc de ces êtres-là et de leur capacité de communication jusqu'à l'homme, et cela sans heurts marqués. Et puis une autre conception tout à fait opposée, celle-ci, à la première, qui désigne ceux qui pensent qu'il y a un hiatus profond, une frontière, un effet d'émergence radicale et de novation dans le fait que notre espèce est loquace. Alors, quel est votre sentiment vis-à-vis de l'une et de l'autre de ces thèses, Jean-Louis Dessalles ?
Alors, je peux difficilement cacher le fait que je favorise la seconde, c'est-à-dire le fait qu'il y a effectivement un hiatus, qu'il y a une discontinuité de ce point de vue-là, du type de communication que nous avons entre ce qui se passe chez les humains, ce qui se passe notamment chez les primates. Mais il faut bien voir effectivement que c'est une attitude qui d'emblée peut apparaître suspecte. Pourquoi ? Parce que dans le passé, les attitudes qui tentaient de mettre l'homme à l'abri, même si on a depuis longtemps admis les idées sur l'évolution, on a quand même très longtemps tenté de mettre l'homme sur une espèce de pinacle qui était hors d'atteinte de tout ce qui se passait chez les animaux. Donc en fait, c'est forcément suspect. Et à juste titre aussi, on a vu que les chimpanzés, les primates avaient été longtemps sous-estimés. Hein. Et effectivement, il y a beaucoup d'expériences sur les capacités des chimpanzés qui nous révèlent des capacités cognitives impressionnantes. Et même sur le langage. Alors, la question qui se posait, c'est si on enseigne le langage aux chimpanzés, peuvent-ils l'acquérir ? Et entre ceux qui disaient évidemment non, puisqu'ils ne sont pas intelligents, ceux-là ont quand même été tout à fait surpris de voir que les capacités de ces chimpanzés, bon, on pense à Candy, par exemple, qui est le plus célèbre d'entre eux, sont tout à fait impressionnantes et étaient inattendues. Je peux parler un tout petit peu de Candy.
Volontiers.
Voilà, qui...
Parce que l'histoire est déjà très belle.
Alors, l'histoire est belle, c'est un chimpanzé bonobo. Donc il y a deux espèces de chimpanzés, donc c'est une espèce un petit peu moins connue.
Plus gracile.
Voilà, qui...
Moins agressive en général que les chimpanzés stricts.
Oui.
Pratiquent une sexualité très étendue, avec des pratiques homosexuelles dans tous les sens, qui ressembleraient plutôt à l'érotisme développé par les humains.
Voilà, il y a beaucoup de choses à écrire sur les chimpanzés bonobos. Donc on va retenir juste un tout petit peu l'histoire de Kanzi, qui a été élevé par Sue Savage-Mbao, donc dans un laboratoire d'Atlanta, à une époque où les expériences sur les chimpanzés n'étaient pas à la mode pour ce qui est du langage. Hein. C'est-à-dire qu'elles avaient été très décriées. On avait dit, en fait, vous prétendez apprendre le langage aux chimpanzés, tout ce que vous faites, c'est du dressage. Et donc, il n'y a plus de crédit. Donc, elle s'est entêtée, elle a élevé son chimpanzé. Elle ne travaillait pas sur lui, elle travaillait sur sa mère. Donc, elle a essayé d'enseigner le langage avec une méthodologie qu'ils avaient à l'époque sur des symboles un triangle qui voulait dire pomme, par exemple, une faune, un cercle qui vous pouvait dire banane. Et donc la mère était assez réfractaire à ce genre d'enseignement. Et par hasard, un beau jour, ils sont aperçus que le petit Kanzi, qui était âgé de quelques mois, ça s'est passé un jour où la mère avait dû être éloigné du laboratoire, à des fins de reproduction, donc il l'avait éloigné, et donc il se retrouvait avec le petit Kanzi. Ils sont aperçus que le petit Kanzi, spontanément, se connaissait beaucoup mieux que sa mère les symboles, alors qu'on n'avait jamais appris, il n'y avait pas d'enseignement dirigé vers lui. Donc ça, c'était la première grande surprise. Donc le jeune Kanzi avait appris très vite un certain nombre de symboles.
Oui, c'est assez saisissant, d'ailleurs, c'était sur une phrase, en disant le cercle bleu et sous le triangle rouge. Et sous le cercle bleu, il y avait un triangle vert. Et il a mis le bon triangle qu'il fallait, c'est ça. Il a donné la réponse c'est étonnant.
Il a rectifié. Et voilà, il y avait un aspect spontané dans son acte. C'est ça qui est très impressionnant. Ça, c'était la première grande surprise avec Kanzi. Donc, il a appris très vite, plusieurs dizaines de signes, plusieurs centaines. Pour donner une idée, maintenant, il connaît à peu près un millier de signes, ce qui est
beaucoup plus
que ce qu'on attendait. Hein. La deuxième surprise, c'est quand on s'est aperçu que Kanzi comprenait des mots anglais. Hein, donc l'anecdote est la suivante, il commençait les chercheurs évidemment ne se gênaient pas pour parler devant Kanzi, et ils se sont aperçus que quand le mot light, qui veut dire lumière, était prononcé devant lui, Kanzi allait spontanément à l'interrupteur de la pièce et allait allumer ou éteindre. Et donc là, ils sont aperçus que Kanzi, même s'il ne pouvait pas produire de son, les comprenait parfaitement. Donc ils se sont mis à laisser un petit peu tomber pour l'expression, Kanzi continue à utiliser des symboles, mais quand ils communiquent avec Kanzi, quand les humains, les chercheurs communiquent avec Kanzi, ils le font en anglais. Et en anglais normal, hein, pas des mots séparés, et Kanzi attrape. Donc il a encore une fois des capacités tout à fait insoupçonnées.
Alors on pourrait rajouter aussi comme autre exemple, et après poser les questions de principe, c'est un exemple que vous citez bien sûr, à la suite des travaux de Von Frisch, très très célèbre, sur les abeilles, où on voit que des abeilles peuvent communiquer avec une extrême précision, c'est-à-dire en donnant des distances pour les situations où se trouve la nourriture, de 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, par une danse très particulière, et qu'elles ont donc là une capacité de communication avec leurs congénères d'une extrême précision.
Le cas des abeilles est très impressionnant. Depuis l'Antiquité, on savait que les abeilles étaient capables de se communiquer des sources de nourriture, mais il a fallu attendre les travaux de Von Frisch dans les années 30, qui a en quelque sorte craqué le code, comme on dit, hein, c'est-à-dire il a découvert le code des abeilles. Et c'est vraiment très impressionnant dans la mesure où, au lieu que ce soit l'abeille qui guide ses congénères vers la source de nourriture, elle leur communique par une danse la localisation de la nourriture, et les autres abeilles y vont uniquement d'après cette connaissance. Alors c'est une danse qui se passe dans l'obscurité de la ruche. L'abeille danse, elle fait une sorte de 8, typiquement, il y a plusieurs danses, mais enfin, typiquement, c'est un 8. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle indique la bonne direction et la bonne distance. Alors, la bonne distance s'indique par une espèce de frénésie, l'ardeur qui peut se mesurer avec laquelle elle dessine son 8, sa danse, mais le plus impressionnant, c'est la direction. L'axe du 8 fait avec la verticale, parce que ça se passe dans les rayons de la ruche, donc c'est vertical. L'axe du 8 fait un angle avec la verticale qui est égal entre l'angle de la direction à prendre avec le soleil. Donc là, on a vraiment un code. Alors c'est un code analogique, mais c'est un code au plein sens du terme qui permet aux autres abeilles de trouver la bonne source de nourriture.
Alors vous avez dit le mot, Jean-Louis Dessalles, donc un code. Évidemment, le langage humain est aussi, et à part entière, un code. Donc là, il y aurait peut-être solution de continuité, pour me faire un instant l'avocat du diable de ces thèses contre lesquelles vous êtes, puisque des insectes, pardon, comme les abeilles, ce que vous avez expliqué du bonobo Kanzi montre cette faculté donc de langagière, pratiquement, en tout cas de communication, donc on pourrait imaginer d'appuyer la thèse de la continuité, alors.
Alors voilà, j'ai beaucoup de mes collègues qui tiennent très très fort à cette idée de continuité dans la communication. Et de fait, on sait que la plupart des espèces animales communiquent. Il faut au moins communiquer pour se retrouver entre partenaires sexuels. Et puis, bon, les espèces communiquent pour bien d'autres choses, pour marquer leurs émotions notamment. Donc si on regarde nos cousins les primates, ils communiquent très souvent plutôt leurs émotions. C'est un peu ce qui va déjà nous distinguer d'eux. C'est-à-dire que nous avons une communication référentielle. Nous pouvons faire référence à des situations, parler de quelque chose qui s'est passé ailleurs, qui s'est passé avant, qui s'est passé ailleurs. Mais après tout, on vient de voir dans le cas des abeilles qu'elles font la même chose que nous. Elles arrivent à parler d'un phénomène qui est absent. Donc de ce côté-là, on diffère des primates, mais finalement, les abeilles font comme nous. Alors, il y a d'autres arguments. Beaucoup ont dit, ce qui est impressionnant dans le langage humain, c'est la syntaxe. C'est-à-dire la capacité à agencer les mots, agencer les sons pour faire des mots. Donc là, nous avons donc une grammaire, une combinatoire, comme on dit. Et ça, donc, ça nous distinguerait des animaux. Mais c'est faux. C'est faux. Hein. Les spécialistes du chant des oiseaux savent très bien que les oiseaux font de même. Leur chant très compliqué est formé de briques élémentaires, de même que nos phrases sont formées de mots. Avec une certaine grammaire, mais eux aussi ont une grammaire. Les rossignols forment des chants complexes qui ont leur grammaire. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous distinguer.
Ils ont même des dialectes, d'ailleurs. Ils ont des dialectes selon la situation, en particulier dans les situations insulaires. Mm-hmm. Alors là encore, sans vraie méthode, mais pour continuer à investiguer dans les considérations sur la nature vraie du langage, il y a donc un autre aspect qui est très récurrent et qui est le suivant dans la curiosité, c'est de constater qu'on a un appareil phonatoire qui évidemment permet ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire de verbaliser. Et la question de se pose, bien sûr, et on a le sentiment qu'on est en boucle. La question est la suivante, c'est faut-il d'abord disposer physiologiquement, anatomiquement, d'un appareil phonatoire que les singes n'ont pas, en tout cas que les primates, nos cousins les plus proches, n'ont pas, ou au contraire, faut-il imaginer déjà des éléments, on peut penser à l'invention de la culture, on peut penser à un grand avantage d'intelligence, qui serait la cause qui aurait conduit à cette modification anatomique permettant la phonation. Alors, que dit Jean-Louis Dessalles dans La Circonstance par rapport aux thèses en présence?
Voilà, alors je marche un petit peu à l'envers des autres thèses. Il y a beaucoup de thèses qui circulent, effectivement, qui vont dire l'homme a développé un appareil phonatoire pour des raisons X, par exemple pour mieux respirer, on a entendu beaucoup de choses, et après il s'est mis à parler. Ou alors l'homme est devenu plus intelligent, il s'est mis à parler. Je pense que c'est l'erreur de renverser, mettre les faits avant la cause. Si nous avons un appareil phonatoire tout à fait presque ridicule d'un point de vue anatomique, nous avons un pharynx extrêmement bas, au niveau de la sixième vertèbre, ce qui nous pose d'énormes problèmes par rapport aux autres animaux, puisque nous pouvons avaler de travers et en mourir. On a un exemple récent dans l'actualité.
Dans la politique.
Dans la politique.
Le danger de la déglutition. De la déglutition
présidentielle.
Voilà.
Et donc, ce grand danger auquel nous sommes exposés, c'est le prix que nous payons pour avoir un appareil phonatoire. Cet appareil phonatoire, nous l'avons parce que nous avons un intérêt à parler. Donc ça, c'est... Donc en fait, le langage vient en premier et le reste suit. J'ai envie de dire que non seulement le pharynx, avec sa position basse, est une conséquence du langage, mais comme Jacques Monod, j'ai envie de dire que l'intelligence, notre intelligence, est une conséquence du langage.
Alors, ça revient un petit peu à l'allure de certaines thèses aussi de Leroy Gourhan qui montre de façon presque directe que beaucoup de modifications viennent des progrès de l'intelligence, en particulier de l'intelligence technique, qui aurait conduit à des modifications, cette fois anatomiques.
Alors, tout cela, toutes ces théories, comme celle de Leroy Gourhan, on la connaît, sur l'idée que l'homme a manipulé des outils, que ça a développé... parce qu'il était bipède, il a libéré sa main, il a manipulé des outils, ça l'a rendu intelligent, et donc il n'a rien trouvé de mieux que de se mettre à parler. Ça suppose qu'on se mette dans un contexte où il y a un avantage évident à communiquer comme nous le faisons. Or ça, c'est tout à fait problématique. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais le gros problème est là, c'est que si les chimpanzés avaient un intérêt à avoir une communication comme la nôtre, Référentiel par exemple, ils n'ont pas besoin d'un appareil phonatoire compliqué, ils ont déjà des mains, ils peuvent montrer, ils peuvent désigner. Or, les chimpanzés, bon, c'est un petit peu controversé, mais ne désignent quasiment jamais de quoi que ce soit à leurs congénères. Donc là, on a déjà un problème pour la thèse continuiste. Et ce qui fait... tout à l'heure, j'ai fait l'avocat du diable en disant toutes les raisons pour lesquelles on pouvait considérer qu'il y avait une ressemblance entre les capacités des animaux et les nôtres sur le plan du langage. Mais il y a au moins une chose que nous faisons et qu'à notre connaissance, les espèces animales ne font pas, c'est signaler des événements qui présentent un intérêt. Par exemple, un événement improbable, donc quelque chose d'inattendu. Ces chimpanzés ne le font pas. Les chimpanzés sont très curieux. Donc ils vont avoir tout de suite leur attention attirée par un événement insolite, mais ils ne vont pas communiquer à son propos. Les êtres humains le font, ils le font à un très jeune âge, entre 9 et 12 mois. Donc vous voyez, le petit enfant se met, dès qu'il voit quelque chose d'inattendu, par exemple une petite poupée qu'on fait danser, non seulement il est son attention attirée, mais il va essayer à tout prix d'attirer l'attention de sa mère vers l'objet. Il n'aura de cesse que sa mère ait vu l'objet. Et donc ça, c'est une propriété proprement humaine et nous le faisons tous les jours spontanément dans nos conversations. Dès qu'un événement insolite se produit, nous communiquons à ce propos. Et ça, nous sommes la seule espèce à le faire. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'appareil phonatoire compliqué, il suffit de pouvoir montrer. Donc la communication de type humain, elle commence déjà là. Et là, on a vraiment une discontinuité, un hiatus, comme vous disiez. C'est pour une raison qui reste à expliquer. Nous avons ce comportement bizarre et les animaux ne l'ont pas.
Jean-Louis Dessalles, il y a une autre voie aussi de réflexion qui vous conduit là encore à être dans une situation, une position critique. Cette fois, vous êtes dans le cadre de la théorie de l'évolution. Alors, là encore, dans le cadre de la théorie de l'évolution, si on prend Darwin, vous rappelez qu'évidemment, il avait une vision continuiste. Parce que sa conception de l'évolution était gradualiste, donc très lentement, petit à petit, les éléments qui, un beau jour, apporteront notre capacité langagière à sa survenue, se ramassaient, se rassemblaient. Et là, vous n'êtes évidemment pas d'accord, et vous mobilisez un autre théoricien de l'évolution, plutôt deux, mais enfin bon, il y en a un qui est très célèbre, qui est Stephen Gould, qui s'est illustré par sa conception anti-gradualiste, mais au contraire saltationniste, montrant l'évolution faisant d'un seul coup de brusques écarts, et que c'est dans un de ces brusques écarts qu'il faudrait plutôt voir, comme un pli très profond, l'émergence de la capacité de langage.
Oui, un aspect effectivement de la théorie de Darwin, parce que... Je pense que Stephen Gould est tout à fait darwinien, mais c'est un aspect, il s'oppose à Darwin. Et dans cette opposition, effectivement, je choisis Gould. Alors, pourquoi je choisis Gould, à quel titre? C'est parce que l'évolution est devenue une science expérimentale. Avec les ordinateurs, on peut simuler les phénomènes d'évolution. Donc quand je vois évoluer mes petites bestioles simulées dans l'ordinateur, je ne peux pas m'empêcher d'être gouldien sur cet aspect, et donc non gradualiste. Ça ne veut pas dire que je suis saltationniste. Alors, il faut expliquer tout ça. C'est l'idée de Darwin, c'est que l'évolution est un phénomène lent et graduel, qui prend le moindre changement, prend des millions d'années. Et de fait, c'est vraiment l'histoire qu'on nous raconte. On voit, quand on regarde l'enregistrement fossile, on dit, vous voyez, il y a une gradation, un changement, une accumulation de petits changements graduels. Et l'évolution fait ce qu'elle peut, mais comme elle est lente... Bon. Alors, la vision qu'on a de l'évolution est tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire que, bizarrement, l'évolution est un phénomène rapide. Et c'est-à-dire pour cette raison qu'on l'utilise, que les ingénieurs l'utilisent. Il y a une technique qui s'appelle les algorithmes génétiques qui utilise les phénomènes d'évolution, qui copie les phénomènes d'évolution pour les reproduire dans l'ordinateur, parce que ce sont des phénomènes rapides, l'évolution par sélection naturelle. Alors comment expliquer que finalement on ait l'impression que l'évolution soit lente alors qu'en fait elle est rapide? C'est ce que Gould nous explique, c'est qu'en fait la plupart du temps les espèces sont en équilibre. Elles sont adaptées à leur niche écologique, elles sont isolées dans leur niche écologique, et par moments, c'est ce qu'il appelle les sauts, d'où l'idée de saltationnisme, Par moment, il y a un changement brusque.
Un changement environnemental, par exemple.
Ça peut être dû à un changement environnemental. Et Gould insiste sur le fait qu'il n'y a pas de direction. Il n'est pas possible de prévoir la direction du changement. Hein, donc les espèces s'adaptent par saut. Alors évidemment, j'ai dit que je n'étais pas vraiment saltationniste. C'est-à-dire que si on met la loupe sur ces sauts, on voit que toutes les formes intermédiaires existent. Mais comme l'évolution est un phénomène rapide, ça n'a pas le temps de s'enregistrer par exemple dans les couches géologiques. Donc pour celui qui regarde les fossiles, il n'y a pas de saut. Donc Gould, c'est quelqu'un comme ça, qui regarde les fossiles dans les muséums d'histoire naturelle et il voit des sauts brusques. Donc en fait, la leçon qu'on doit tirer de cela, c'est que toutes les espèces sont isolées dans leur niche écologique et l'homme ne fait pas exception. Donc c'est pour ça qu'on en vient à cette idée de non-continuité du point de vue du langage entre la communication animale et la communication humaine, c'est que nous en tant qu'espèce, nous sommes dans une niche et que cette niche est caractérisée, entre autres, par l'usage intensif d'une forme de communication très particulière qu'est le langage.
Oui. Si on devait regarder alors les candidats possibles, encore dans votre ouvrage, vous analysez avec minutie, bien sûr, cette question. Pour certains, on peut imaginer que parmi nos ancêtres, il y aurait, mettons, Homo erectus, celui qui s'érige, celui qui se lève, et qui peut-être serait le candidat à ce qu'on peut appeler un proto-langage. Donc on aurait un proto-humain, ou un des premiers qui donneront dans leur descendance sapiens, Homo sapiens sapiens, et puis déjà équipé d'une forme très rudimentaire et élémentaire de langage. Cette vision vous agrée ou pas, Jean-Louis Dessalles ?
Alors, oui et non, c'est l'adjectif rudimentaire qui me gêne. C'est-à-dire que ça a l'air d'être contradictoire avec ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que nous sommes Homo sapiens, ce ne sont pas la première espèce d'homo. Donc il y en a eu d'autres avant, donc qu'on regroupe sous l'appellation Homo erectus ou Homo ergaster. Donc cette autre espèce devait avoir une niche écologique avec un comportement. Et elle était adaptée à sa niche écologique. Donc il est convenu maintenant d'appeler un proto-langage la forme de communication supposée, parce que le langage ne laisse pas de fossiles, mais la forme de communication supposée d'Homo erectus. Donc on peut faire l'hypothèse, on a des raisons de penser qu'il y avait au moins une forme intermédiaire de communication, mais ce n'était certainement pas un brouillon. Hein, si on applique les idées de Gould, le proto-langage n'était pas une étape intermédiaire et obligatoire du non-langage, c'est-à-dire de la forme de communication animale, vers notre langage. Il n'y a pas d'idée de progrès ni de direction. Il se trouve que, de manière fortuite, Homo erectus avait une forme de communication, sans doute, c'est l'hypothèse, qui était le proto-langage et il était très heureux avec, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça répondait parfaitement à ses besoins biologiques. Et si nous avons fait une innovation, on aurait pu en faire une autre. Et d'ailleurs, on peut faire de la paléontologie fiction et supposer que, par exemple, l'homme de Néandertal avait fait un autre type de changement par rapport à Homo erectus. Je ne sais pas si on le saura un jour, si on aura les moyens de faire un scénario comme celui-là, mais on ne peut pas l'exclure. On sait que l'homme de Néandertal avait un cerveau au moins aussi gros que le nôtre. Il était sans doute aussi intelligent que nous. Il avait peut-être une forme de communication qui était qualitativement différente, de même que nous avons une forme de communication qualitativement différente de celle du chimpanzé.
Vous utilisez aussi un des concepts qui a été mis en vogue d'une certaine manière par Stephen Gould et qui s'oppose au concept d'adaptation, qui est le concept d'exaptation. Alors, il est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que, en général, on l'illustre par le fait que les premiers vertébrés terrestres n'ont pas attendu d'avoir des pattes pour... les pattes ne se sont pas développées à partir du moment où ils étaient sur Terre, mais que, de façon gratuite, fortuite, ils étaient déjà équipés de pattes dans le milieu aquatique, et que c'est en les utilisant cet appendice-là, qui n'avait pas de fonction propre, qu'ils ont été capables de marcher sur la Terre. Donc là, on a un phénomène dit d'exaptation. Et on pourrait peut-être considérer qu'à un moment, sans aucune finalité, évidemment, comme vous l'avez dit, et sans aucune adaptation, sans strict du terme, l'homme, ou cette espèce-là, a utilisé quelque chose qui était peut-être adjacent, et l'a amplifié de manière opportuniste.
Oui, alors le langage est un... Enfin, le langage, l'utilisation notamment de l'appareil phonatoire, l'appareil respiratoire pour faire de la phonation, c'est un très bel exemple d'exaptation. c'est quand même un appareil qui est fait déjà pour deux fonctions, qui est celle de respirer et celle d'avaler. C'est déjà beaucoup, d'ailleurs, avec tous les problèmes que ça pose de carrefour et de difficultés. Et là-dessus, y a encore la nature fait du neuf avec du vieux, comme disait François Jacob. Elle n'a rien trouvé de mieux que de rajouter une troisième fonction, qui est celle de produire des sons. On passe à peu près 20% de notre temps éveillé à parler, vous imaginez le temps, enfin, ça devient l'utilisation principale de cet appareil-là, et, enfin, avec la respiration, mais beaucoup plus que l'alimentation. Donc là, on a un exemple d'exaptation. Et ça montre bien que c'est un cas où l'organe suit la fonction. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu, pour une raison fortuite ou qu'il faut expliquer, une pression de sélection pour avoir ce type de communication, l'appareil respiratoire a été recruté. Si ce n'avait pas été possible, l'évolution s'est brouillée autrement. D'ailleurs, les personnes qui sont malentendantes, qui sont muettes pour toutes autres différentes raisons, se mettent à s'exprimer avec leurs mains et ça fonctionne plutôt bien. Donc en fait, pour différentes raisons, l'appareil respiratoire était plus disponible puisqu'on l'utilisait pour produire déjà des sons, les animaux le font. Ça a été recruté, donc un bel exemple d'exaptation.
Vous dites, mais ça c'est une toute petite parenthèse, que en tout cas cet appareil il est quand même relativement performant puisqu'on peut produire beaucoup de phonèmes en un temps très très bref, et puis aussi qu'il a cette capacité unique, semble-t-il, à pouvoir produire la voyelle I. Je dis bien I.
Alors I, oui. On a quand même maintenant un appareil fantastique. Qui nous permet de transmettre 10-15 phonèmes à chaque seconde, qui nous permet...
Ça me semble énorme, en plus.
Oui, ce qu'on appelle phonème, dans le moindre mot, il y en a déjà, effectivement, de l'ordre de la dizaine. Hein. C'est tous les sons élémentaires. Donc, un P, le son P dans P, il y a déjà deux phonèmes. Il y a le P et le A. Donc, en première approximation, ça va correspondre aux lettres de l'alphabet. Hein. Et cette capacité-là, le chimpanzé ne l'a certainement pas. Donc en fait, là, il y a eu une évolution, mais c'est une évolution de type rapide. Ça, l'évolution, le mécanisme d'évolution par sélection naturelle vont très très vite pour nous doter de ça. Et notamment, le chimpanzé n'a pas de contrôle cortical, c'est-à-dire que sur son appareil phonatoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de représentation fine au niveau de ce qui est l'aspect le plus fin calculateur de notre cerveau, qui est le cortex. Hein. Donc nous l'avons, c'est-à-dire qu'au niveau des... Si, en neurologie, on voit que... il y a des projections sur le cortex du cerveau, des muscles qui peuvent être commandés par notre intelligence, peut commander directement les muscles du pharynx. Ça, le chimpanzé ne peut pas le faire. Mais l'évolution a bricolé quelque chose en quelques... Alors quand je dis que c'est rapide, hein, évidemment, c'est sans doute pas mal de milliers ou de dizaines de milliers d'années, mais à l'échelle de l'évolution, c'est très rapide.
Alors il y a, Jean-Louis Dessalles, aussi un aspect étonnant dans votre analyse et votre analyse critique, c'est la position de Chomsky, parce que s'il y en a une qui en première apparence pourrait sembler, elle, comme non continuiste, c'est bien celle-ci, avec l'idée de grammaire universelle. Noam Chomsky dit, c'est le propre de l'homme, c'est qu'il a un équipement absolument intégral, qui lui permet la capacité langagière et qu'il ne la partage, cette grammaire-là, avec personne d'autre, parmi les autres êtres vivants sur cette planète.
Alors Noam Chomsky a ouvert une porte superbe et l'a refermée tout de suite. C'est ça qui est très étonnant pour ce qui est de la question de l'évolution du langage. Effectivement, il a naturalisé le langage. À l'époque des années 50-60, on considérait que le langage était une convention culturelle. Hein. Il a fallu, donc c'est toutes ces considérations sur notre physiologie du pharynx, le fait que nous avons des aires corticales spécialisées pour le langage, et l'argument de Chomsky sur le fait que finalement, si on regarde l'ensemble des langues du monde, elles ont l'air d'être faites sur le même modèle, ce qui n'enlève rien à la beauté, à la richesse de toutes les langues qu'il faut absolument étudier, mais si on les regarde assez loin, si on les simplifie suffisamment, elles ont l'air d'être faites sur le même modèle. D'où l'idée de Chomsky que nous avons une faculté de langage.
Qui repose sur cette grammaire universelle.
Voilà, sa fameuse grammaire universelle, il dit toutes les grammaires de toutes les langues, aussi belles soient-elles, dérivent d'un même schéma commun qui est cette fameuse grammaire universelle. Et donc, d'emblée, donc il nous dit, finalement, il a même employé le mot organe. Il nous a dit, c'est un organe, le langage d'un organe, au même titre que nous avons le cœur ou le foie. Et alors là, il a ouvert une porte merveilleuse, il a naturalisé le langage, il a ramené le langage dans les questions d'histoire naturelle. Et il a tout de suite fermé la porte en disant, parce qu'il était ami avec Gould, il a surtout été très impressionné par les idées de Gould, et il les a prises dans le sens saltationniste. Il a dit, mais c'est tout, il n'y a rien à expliquer. Il y a eu une apparition soudaine du langage, voilà, et la messe est dite, il n'y a plus rien à dire. Alors qu'en fait, comme le cœur, toutes ces caractéristiques ont une fonction. Les caractéristiques un petit peu complexes, et c'est certainement le cas de la grammaire universelle ou de nos appareils phonatoires, ils ont une structure complexe et la seule source qu'on connaisse dans la nature, c'est l'évolution par sélection naturelle. Donc il faut une fonction derrière. Le langage n'existerait pas s'il n'avait pas de fonction. C'est là qu'on arrive à une grande question, quelle est la fonction du langage ? Et là, on a un paradoxe, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que cette fonction était évidente, mais elle ne l'est pas. Pendant longtemps, on a considéré que de manière évidente, le langage était fait pour communiquer, que c'était bon pour l'espèce, pour le groupe. Et ça correspond à une idée, moi j'appelle ça la version romantique, l'idée romantique de l'évolution par sélection naturelle. C'est celle qu'on apprend, qui était en vogue dans les années 30-60 du siècle dernier, mais qui est encore dans les manuels scolaires, hein, ce qui est que ou dans la vie des animaux, on entend que ce qui est sélectionné, ce qui est bon pour l'espèce. Or ça c'est faux, on sait qu'il n'y a aucune raison, l'espèce n'a pas de volonté, il n'y a rien de tel. Ce qui est sélectionné par la sélection naturelle, ce sont les caractéristiques qui profitent à leur porteur. Donc les individus qui montrent des caractéristiques différentes de leurs congénères, et que, si ça leur permet de mieux vivre, de mieux se reproduire, c'est exactement ce que Darwin a dit, là. Il n'a rien dit d'autre. Et c'est ces caractéristiques-là qui leur permettent qui sont sélectionnées. Donc dans le cas du langage, il ne faut pas poser la question de savoir en quoi c'est bon pour l'espèce. C'est pas du tout la question. Il faut savoir en quoi c'est bon pour ceux qui communiquent, c'est-à-dire pour les individus. Donc en quoi le fait de communiquer est profitable aux individus. Et là, on s'aperçoit que la réponse n'est pas simple du tout.
Jean-Louis Dessalles, alors on va arriver maintenant aux infos, aux déclarations, on va dire cette fois positives, non pas de distance critique. La première, peut-être qui est d'une certaine manière la plus saisissante, c'est que l'homme est dans l'obligation de parler.
Voilà, c'est-à-dire que c'est certainement, on peut le dire de manière indirecte, sinon ce comportement disparaîtrait. Mais quand même, ce constat est tout à fait étonnant dans la mesure où, en parlant, l'homme donne des informations utiles à ses concurrents génétiques. Quand vous donnez des informations sur ce que vous avez vu d'important, parce que c'est ça qu'on rapporte, hein, c'est des faits insolites ou qui présentent un certain enjeu, donc on va rapporter, quand on vient raconter quelque chose à ses amis, on leur dit, vous savez pas ce que j'ai vu, et donc en général, ce qui vient derrière, c'est quelque chose qui est pertinent, important pour les autres. Donc c'est une forme d'aide. Pourquoi va-t-on aider les autres ? Et donc ça, normalement, c'est en général des comportements qui sont éliminés par les sélections naturelles. Or nous le faisons à longueur de journée.
Oui, éliminés parce qu'on peut imaginer que les individus seraient plutôt concurrents, voilà, dans l'accès aux ressources, ainsi de suite.
Voilà, nous descendons d'individus, nos ancêtres étaient des individus qui ont réussi à mieux exploiter les ressources que leurs frères ou cousins. Et donc, ils n'avaient pas nous descendons a priori pas de ceux qui ont passé leur temps à aider les autres. Nous devrions descendre des seconds et pas des premiers. Donc, comment expliquer le langage dans ces conditions ?
Est-ce que c'est dans un environnement général qu'on peut considérer l'intitulé de l'altruisme, mais au sens sous lequel on l'entend dans l'histoire naturelle, dans la zoologie ?
Ah, tout à fait. Le langage est altruiste. Hein. Et c'est ça qui le rend problématique. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est parce que nous sommes une espèce, nous avons la civilisation. Il ne faut pas croire du tout que le langage est altruiste uniquement dans les populations dites civilisées. La forme de langage que nous avons est universelle. Nous ne connaissons pas de population qui soit mutique. Nous, et la forme avec laquelle nous usons du langage, qui est essentiellement donc celle dont on parlait tout à l'heure, d'attirer l'attention sur des aventures ou des phénomènes insolites ou présentant un enjeu, ou alors en argumentant, hein, ce que nous avons en ce moment, nous argumentons. Ces deux formes-là sont universelles, on les rencontre partout sur la planète. Donc en fait, c'est pas lié à une espèce de politesse, ou c'est pas culturel, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, comme vous dites, il semblerait qu'on soit obligé de parler, on ne peut pas s'en empêcher d'ailleurs.
C'est vrai que d'imaginer un instant quelqu'un qui soit dans le mutisme permanent est inconcevable. Ou alors ça serait une situation pathologique, bien évidemment.
On peut demander aux auditeurs de faire une expérience très simple, ils arrêtent de parler pendant une semaine. On regarde, ils font l'expérience et après on regarde ce qui leur arrive. En général, on commence à être mis de côté, les gens ne font plus attention à vous, après ils considèrent que votre comportement est pathologique, et à la fin on vous amène peut-être chez le psychiatre.
C'est-à-dire, ça va si vous n'êtes pas un peu autiste, oui.
Voilà.
Oui.
Il en est de même, en fait le problème c'est pas seulement de parler ou de ne pas parler, c'est de parler bien. Celui qui commence à faire des interventions inadéquates, décalées, on commence à le regarder de travers, on continue par le fuir, on ne s'intéresse pas à lui, et à la fin, pareil, il se retrouve, si vraiment il est décalé, il se retrouve chez le psychiatre, il se retrouve interné.
Donc, exemple, en fait, si je vous dis un nuage moutonneux.
Voilà, brusquement, en plein milieu de l'émission, donc je ne serais peut-être pas le seul à me poser des questions sur
la situation mentale. Bon.
Exactement. Donc, en fait, là, il faut expliquer quelque chose et l'explication n'est pas facile à trouver. Donc, en fait, les gens ont tenté d'expliquer, de comparer l'information qu'on donne. Ils ont utilisé une métaphore marchande. Je donne une information à l'autre, il va m'en rendre d'une même qualité. Bon, ça ne marche pas bien, ce genre de scénario. On n'arrive pas du tout à expliquer pourquoi les gens se battent pour prendre la parole. Hein. Dans certaines cultures, quand les règles de politesse le permettent, ils vont essayer de lutter pour parler, et c'est pas du tout une sorte d'économie de l'information dans laquelle, au contraire, on devrait faire attention de savoir si l'autre va bien. Dans une économie de troc, on fait très attention à qui on parle. Bon, là, c'est pas du tout le cas. Les humains se battent pour parler. Les humains sont bavards. Il y a beaucoup plus de bavards que de taciturnes dans l'espèce humaine.
Et vous dites aussi qu'il y a évidemment beaucoup plus de gens qui veulent parler que de gens pour les écouter.
Voilà, c'est plutôt les auditeurs qui manquent, j'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais en général, effectivement, on a tous cette expérience dans les cercles d'amis où désespérément on cherche du regard quelqu'un qui veut bien vouloir écouter la fin de son histoire. Donc ça ne cadre pas du tout avec un scénario marchand. Donc en fait, il faut trouver une autre explication.
Et dans cette logique-là, il y a une chose, il y a un trait très saillant aussi, d'ailleurs, il faut qu'il le soit, justement. Si par exemple je dis la poubelle verte, c'est l'exemple que vous utilisez, la poubelle est verte, alors que majoritairement les poubelles sont vertes à Paris.
Voilà.
Et si donc, sortant de chez moi, ayant rendez-vous avec vous, je vous dis la poubelle est verte.
Alors tout de suite une réaction d'incompréhension, parce que nous avons cette obligation d'être pertinent. Il faut dire quelque chose qui présente un intérêt. Si on dit, donc ça c'était, j'avais demandé à un étudiant, il avait trouvé cette phrase, il l'a prononcée avec ses amis, et donc on lui a dit, mais pourquoi tu dis ça? On cherche absolument une raison, parce qu'on ne fait pas tout de suite l'hypothèse que l'autre est fou, hein, on cherche une explication.
Donc, oui, il vaut mieux dire, j'ai vu une poubelle furieusement mauve avec des paillettes, par exemple.
Là, c'est beaucoup plus efficace.
C'est ça. Et alors dans ce cas-là, c'est une illustration un peu moqueuse, mais d'une loi très très importante sur laquelle vous faites fond, Jean-Louis Dessalles, qui est qu'on doit à Claude Shannon, le grand théoricien de l'information, qui date des années du milieu des années 40.
Voilà, Claude Shannon, qui malheureusement est décédé l'an dernier, à la fin des années 40, qui a de 1940, a produit une théorie dans un tout autre contexte, hein, c'est celui de la technique des télécommunications. C'est celle de sa fameuse théorie de l'information vise à quantifier l'information. Donc quelque chose présente véhicule une information importante s'il est improbable. Donc quelque chose. Donc si je vous dis aujourd'hui à midi, enfin demain à midi il fera jour, ça n'a aucun intérêt. Du point de vue de Shannon, c'est une information très faible. Si j'ai dit demain à midi il fera nuit, donc là, pour X raisons, enfin là il y a une information. D'accord ? Donc on peut dire qu'elle est fausse, on peut ne pas y prêter attention, mais il y a une information. Donc en fait, toute notre espèce est très orientée vers l'information. Et donc, bon, ça, il faut l'expliquer. Nous communiquons et, ce faisant, nous aidons nos congénères, parce qu'en général, les événements qui en rapportant des événements qui sont chargés d'informations, nous leur rendons service. La question de savoir pourquoi. Et donc, comme je disais, l'explication n'est pas facile. Et donc, j'ai essayé de concevoir un modèle qui tienne la route pour expliquer ce comportement.
Et votre modèle, je crois qu'on peut le dévoiler. C'est un modèle qui fait, là, cette fois, fond sur l'hypothèse qu'il y aurait évidemment un déterminisme politique.
Ah voilà, si on dit le mot directement, ça paraît un petit peu bizarre, mais effectivement, le lien, c'est le fait que nous parlons pour nous montrer, hein, pour montrer une compétence. Cette compétence, c'est la capacité de savoir avant les autres, la capacité de pouvoir expliquer mieux que les autres. Donc ces compétences-là, nous passons le plus clair de notre temps à le montrer. Et en fait, finalement, ça nous permet de porter un regard sur l'activité langagière, qui est une sorte de compétition, hein, une sorte d'arène, quand nous parlons, en y prenant beaucoup de plaisir, hein, comme toute compétition, mais nous essayons d'être au moins aussi bon ou meilleur que l'autre pour cet aspect-là, essayer de montrer qu'on est bon. Alors pourquoi essaie-t-on de montrer qu'on est bon sur ces chapitres-là, de savoir avant les autres ? Eh bien, dans le scénario politique, c'est-à-dire, en fait, il s'agit de choisir, c'est un critère pour choisir ses amis. Nous choisissons nos amis, nos alliés. L'idée, c'est que l'espèce humaine est une espèce politique. Les chimpanzés aussi. Hein. Les chimpanzés sont une espèce politique. Et, le fameux bouquin de Franz Deval, qui s'appelle « La politique du chimpanzé ».
Oui, jeu d'alliance, de contre-alliance, c'est ça.
Voilà, hein. Oui. Donc, alors, les chimpanzés vont aussi se choisir, mais leur critère principal, ça va plutôt être la force physique. Pourquoi ? Parce qu'ils forment des alliances avec deux, trois individus. Donc quand vous avez deux alliances, deux coalitions qui vont se faire face, la force physique est essentielle. Si on suppose que chez les humains, les coalitions sont plus grandes, peut-être une dizaine d'individus, hein, ou 5, 6, 7, quand vous augmentez, à ce moment-là, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, notamment la capacité à savoir avant les autres. Donc en sachant avant les autres, vous pouvez faire de la politique, vous savez qui est avec qui. Donc en fait, cette capacité, c'est celle que nous montrons par le langage.
C'est une manière d'anticiper l'information, alors là encore,
tout à fait.
Par rapport à l'exemple que vous donniez. Oui. Juste l'espace d'un instant, vous donnez aussi, vous venez de prendre l'exemple des chimpanzés, mais vous donnez un très bel exemple qui est tiré cette fois d'études d'éthologie qu'on doit à Motz Zahavi sur un petit oiseau des zones désertiques qu'il a étudié assez longuement et où vous montrez qu'ils ont des comportements qui sont des comportements de statut social, de faire valoir permanent.
Alors oui, c'est un oiseau qui répond au joli nom de Cratérope écaillé.
Oui, le Cratérope écaillé.
Voilà, qui vit dans le désert, donc dans le désert, dans le semi-désert, c'est-à-dire qu'il y a des petits buissons, et donc les troupes de Cratérope vivent dans les buissons. Donc c'est essentiel de se choisir, de choisir ses alliés pour défendre le buisson. Et ces animaux ont des comportements tout à fait bizarres, qui rappellent un peu le langage, puisque le langage, on l'a vu, est altruiste. Ces animaux font de la compétition pour savoir qui sera le plus altruiste. Donc en fait, un animal va essayer de nourrir un autre, et si un autre... Donc il y a deux petits oiseaux, il y en a un qui nourrit l'autre de manière ostensible, et il y en a un troisième qui arrive et qui va dire « Non, c'est moi qui le nourris ». Donc en fait, ils sont en compétition pour se montrer sympathiques. Pareil pour monter la garde. Ils vont monter la garde.
D'alerte. Oui.
Voilà, le comportement d'alerte. C'est un comportement risqué, c'est altruiste, parce que celui qui montre la garde, il s'expose au prédateur. Et donc, en fait, celui qui a un statut plus élevé va le déplacer et dire non, c'est moi qui monte la garde. Donc, en fait, ils ont une espèce de compétition. Et pour l'expliquer, on peut soupçonner que l'explication est la même que pour que le langage chez les humains. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer une capacité. Et pour être choisi comme allié. Hein. C'est en gros, donc tu es doué pour tel et tel comportement, viens dans ma bande. Donc c'est un petit peu la même explication qu'on va invoquer dans le cas du langage et des humains.
Et donc, dans ce cas-là, c'est par les artifices ou la pratique permanente du langage d'obtenir donc des alliances serrées et par là même aussi d'augmenter sa puissance.
Oui, c'est en étant allié. Dans le contexte des humains, c'est une condition essentielle pour survivre et réussir. Une des raisons, c'est parce que si les autres s'allient, il est essentiel d'être soi-même allié. Hein, si les autres ont des amis, il faut avoir des amis. J'avais un collègue américain qui a pris une métaphore qui était celle de la, du Far West. Hein. Quand les colons sont arrivés, il n'y avait pas de loi. Les shérifs, ce marché, ne sont pas installés tout de suite. Donc la seule façon de rester en vie, enfin il y avait deux façons de rester en vie, c'est soit de tirer très vite, hein, d'être le meilleur tireur et de toujours marcher dos au mur. Et l'autre façon, c'était d'avoir des amis. Donc si on est sûr que sa mort sera vengée, on n'a plus besoin de porter des armes. Donc dans l'état de nature, l'assurance vie, ce sont chez les humains, c'est les coalitions, le fait de pouvoir afficher qu'on appartient à une coalition fiable. Et donc la conséquence, c'est qu'il faut vraiment bien choisir ses alliés. Et l'idée, c'est que le langage est un des critères, c'est sans doute pas le seul, c'est un des critères par lesquels, au quotidien, nous jaugeons nos congénères pour savoir si on va en faire des alliés.
Alors, en stricte conclusion, Jean-Louis Dessalles, si on suit votre thèse, c'est donc qu'il faudrait mettre comme événement causant l'organisation sociale de l'espèce humaine, qui serait... Donc productrice du langage, c'est bien ça.
Voilà,
si on met les choses dans le bon ordre, selon vous.
Dans le bon ordre, c'est ça, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire il y a les deux, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, cette structure politique très particulière du langage aurait créé la niche dans laquelle le langage est apparu. Donc notre espèce étant politique, ça crée une niche dans laquelle le langage a pu apparaître. Et inversement, ça nous permet d'avoir un regard différent sur notre capacité langagière. Hein. De même qu'il y a une lutte pour la vie dans le contexte darwinien, notre vie quotidienne est régie par une espèce de lutte pour la pertinence. Il s'agit de se montrer pertinent. Et donc ça nous donne, ça invite à avoir un regard nouveau sur notre organisation sociale, qui est un regard, j'ai envie de dire, politique, au sens de politique de la tribu.
Cette thèse-là, comment a-t-elle été reçue ? On peut constater que vos idées sont publiées depuis peu de temps. Hein. Je crois que cet ouvrage a été publié en l'an 2000. Hein. Est-ce que vous avez eu déjà des réactions à ces thèses ? Juste pour finir, en quelques mots.
J'ai surtout des réactions positives. Moi, je m'attendrais surtout, j'aimerais bien avoir des réactions critiques. Pour l'instant, on est dans une période où la question de l'origine du langage est une question neuve. Et donc, finalement, tout le monde écoute tout le monde. Et donc, on n'en est pas encore à faire des territoires, à essayer. Donc, en fait, effectivement, j'ai eu un trop bon accueil, j'ai envie de dire. Moi, il me tarde d'être arrivé à la période où il y aura effectivement des critiques.
Des opposants critiques.
Voilà, ce qui me permettra sans doute d'affiner le modèle, hein, c'est dans ses grands principes.
Mais soit les accepteurs, soit les objecteurs peuvent se recruter dans de nombreux milieux. De toute façon, on peut imaginer des anthropologues physiques, des ethnologues, des théoriciens du langage, bien évidemment, des spécialistes des sciences cognitive et évidemment tous ceux qui travaillent dans le grand paradigme de la naturalisation des choses humaines, si on peut dire.
Alors, c'est exactement dans ce contexte interdisciplinaire que ce modèle a vu le jour, et c'est de tous ces collègues-là, c'est peut-être pour ça que les réactions mettent du temps à venir, mais c'est dans ce contexte interdisciplinaire et de naturalisation des phénomènes cognitifs en général qu'on espère que ce genre de thèse va se répandre.
Jean-Louis Dessalles, je vous remercie. Titre de l'ouvrage, c'est « Auge d'origine du langage » avec comme sous-titre « Une histoire naturelle de la parole ». Il est publié dans la collection Science aux éditions Hermès. C'était Continent Science, Christian Fontaine, Yaël Mandelbaum, Anne Franchini, Stéphane Delis-Georges.
Si vous voulez nous écrire, notre courriel est continentscience@radiofrance.com.
Merci de votre attention, merci de votre fidélité et bonne fin de matinée sur France Culture.